La Monnaie, le livre du peuple, section 12. Outre les devoirs généraux, il en existe de particuliers, et premièrement les devoirs de famille. La famille, permanente comme la société, en est l'élément primitif. Les relations qui la constituent, antérieures aux lois positives, dérivent directement de la nature même. Un être incapable de se reproduire est un être incomplet. La femme est donc le complément de l'homme. Ils s'appellent, se supposent l'un l'autre, ne forment en deux corps qu'une même unité. Et les enfants qui procèdent d'eux ne sont en réalité qu'un prolongement, une continuation de leur être commun. Ils revivent en eux, comme on le dit, et par les générations successives, se perpétuent indéfiniment. Ainsi, le mariage n'est point une institution arbitraire. Il est l'union physique et morale d'un seul homme avec une seule femme, qui se complètent l'un l'autre en s'unissant. Et toute atteinte portée au mariage, à son unité, à sa sainteté, est une violation des lois naturelles, une révolte insensée contre le Créateur, une source de désordre et de maux sans nombre. Plus d'une fois, on a vu se répandre dans le monde d'abjectes et licencieuses doctrines, destructives du lien conjugal. Repousser avec horreur et dégoût ces hideux enseignements de quelques esprits dépravés, qui voudraient ravaler l'homme au niveau de la brute, et même au-dessous de la brute. Car en plusieurs espèces d'animaux, on aperçoit déjà comme une faible ombre de ce qui devient, en s'élevant, l'union sainte, d'où dépend la perpétuité du genre humain. N'ayez point à rougir devant la colombe fidèle et pudique, et ne dégradez point le caractère sacré imprimé sur votre front par le doigt de Dieu. Entre l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, les droits sont égaux, les aptitudes et les fonctions diverses. La femme n'est point la servante de l'homme, encore moins son esclave. Elle est sa compagne, son aide, les os de ses os, la chair de sa chair. À mesure que le sens moral se développe chez un peuple, elle croît en dignité et en liberté, en cette sorte de liberté qui n'est point l'exemption du devoir et de la règle, mais l'affranchissement de toute dépendance servile. Mari, vous devez à votre femme respect, amour et protection. Femme, vous devez à votre mari déférence, amour et respect. En lui donnant la force, Dieu l'a chargé des plus rudes travaux. En vous donnant la grâce et la tendresse et la douceur, il vous a départi ce qui en allège le poids et fait du labeur même une intarissable source de joie pure. Lorsque votre main essuie son visage mouillé de sueur, toutes ses fatigues ne sont-elles pas à l'instant oubliées? Lorsque son âme est triste et sa pensée soucieuse, une de vos paroles, un de vos regards, ne ramène-t-il pas le calme en son cœur et le sourire sur ses lèvres? L'homme seul est un roseau, dont les souffles divers qu'il agit ne tirent que des sons plaintifs. La nature pour vous est pleine d'enseignements. Ouvrez les yeux, et les plus frêles créatures vous instruiront. Quand les flots, tourmentés par les vents d'hiver, écument et grondent, le pauvre oiseau de mer et sa compagne, réfugiés au creux d'un rocher, se pressent l'un contre l'autre et s'abritent et se réchauffent mutuellement. Il y a bien des tempêtes dans la vie. Prenez exemple sur l'oiseau de mer, et vous ne craindrez ni les vents glacés, ni les vagues qu'il soulève. Mais la fin du mariage n'est pas seulement de rendre aux époux la vie plus facile et plus douce. Son but principal est de perpétuer, par la reproduction des individus, la grande famille humaine. Père, mère, qui de vous pourrait exprimer l'inénarrable joie dont vous tressaillîtes lorsque, pressant sur votre sein le premier fruit de votre amour, vous vous sentîtes renaître en lui? De nouveaux devoirs viennent à ce moment se joindre aux devoirs primitifs destinés à unir l'époux à l'épouse. Autrement, que deviendraient les faibles créatures qui tiennent d'eux l'existence? La mère leur doit son lait et les soins assidus, et le dévouement infatigable d'où dépend leur conservation dans les premières années. Le père leur doit, avec sa tendresse et sa protection vigilante, le pain et le vêtement. Il doit pourvoir à tous leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent s'y pourvoir eux-mêmes. Or, comment y pourvoira-t-il s'il s'abandonne à l'oisiveté? Ou si, dominé par ses convoitises, il dissipe pour les satisfaire le produit journalier de son travail? Celui que l'habitude et la passion entraînent à de pareils désordres, qu'est-il sinon le meurtrier des siens? Savez-vous ce qu'il boit dans ce verre qui vacille, en sa main tremblante d'ivresse? Il boit les larmes, le sang, la vie de sa femme et de ses enfants. Les animaux s'oublient eux-mêmes pour ne songer qu'à leurs petits. Voudriez-vous descendre dans l'abrutissement, plus bas que les bêtes des forêts? Quand vos enfants auront reçu de vous la nourriture du corps, ne croyez pas avoir rempli tous vos devoirs envers eux. Vous avez à en faire des hommes. Et qu'est-ce que l'homme, si ce n'est un être moral et intelligent? Qu'ils apprennent donc de vous à discerner le bien du mal, à aimer l'un et à l'accomplir, à fuir l'autre et à le détester. Reprenez-les de leurs fautes, mais sans colère, ni sans violence brutale, avec une fermeté affectueuse et calme. Qu'ils ne trouvent par vos soins qu'amertume sur la route du vice. Cultivez dès le plus jeune âge et développez en eux les instincts élevés de notre nature, sur lesquels se fonde l'existence sociale, le sentiment de la justice et de l'ordre, de la commisération et de la charité. L'enseignement donné sur les genoux d'une mère et les leçons paternelles, confondues avec les souvenirs pieux et doux du foyer domestique, ne s'effacent jamais de l'âme entièrement. Et ne vous figurez pas que des discours soient tout. Les discours ne sont rien sans l'exemple. Quels que soient vos conseils et vos exhortations, ils demeureront stériles si vos œuvres n'y répondent. Vos enfants seront tels que vous, corrompus ou vertueux, selon que vous serez vous-même vertueux ou corrompu. Comment seraient-ils probes, compatissants, humains, si vous manquez de probité, si vous êtes sans entrailles pour vos frères? Comment réprimeraient-ils leurs appétits grossiers s'ils vous voient livrés à l'intempérance? Comment conserveraient-ils leur innocence native si vous ne craignez point de blesser devant eux la pudeur par des actes indécents ou par d'obscènes paroles? Vous êtes le modèle vivant sur lequel se formera leur nature flexible. Il dépend de vous de faire d'eux ou des hommes ou des brutes. Et comprenez encore ceci. Nous naissons tous dans l'ignorance, et l'effet de l'ignorance est la misère et l'abaissement. Celui qui ne sait rien, qu'est-il en ce monde et qui peut-il être? À quoi est-il propre? Il n'a que ses bras. Il n'a qu'un simple instrument matériel, pour lui en partie stérile, car la force physique n'a de valeur que celle qu'elle emprunte de l'intelligence qui la dirige. L'homme ignorant est donc à peu près une pure machine entre les mains de ceux qui l'emploient pour leur intérêt personnel. Or, voudriez-vous que telle fût la condition de vos enfants? Voudriez-vous qu'à jamais déchus de la dignité humaine, ils végétassent dans un labeur aveugle et presque sans fruit, semblables au bœuf qui creuse son sillon au profit du maître qui l'excite et le guide. Encore au retour des champs, le bœuf est-il sûr de trouver le couvert et la nourriture? Et cette assurance la tue, pauvre peuple, qui vit chaque jour du travail incertain du jour. Vous devez donc à vos enfants l'instruction, comme vous leur devez le pain, l'aliment de l'esprit, aussi bien que l'aliment du corps. Il est vrai que dans le triste état de la société présente, ce devoir vous est souvent difficile à remplir. Les nécessités matérielles vous assiègent tellement qu'à peine pouvez-vous avoir une autre pensée. Et trop de gens croient de leur intérêt que vous restiez, vous et les vôtres, privés de la lumière, à l'aide de laquelle vous parviendriez à vous affranchir de leur dépendance, pour ne pas vous en rendre autant qu'il est en eux la source inaccessible. Cependant, votre devoir subsiste dans les limites où il vous est possible de l'accomplir. Et avec une volonté ferme, peu d'obstacles sont insurmontables. Il y a une grande puissance dans la conscience du devoir. Père, mère, tels sont ceux que Dieu vous impose envers vos enfants. Enfants, apprenez aussi quels sont les vôtres envers vos parents, car vous ne serez heureux et bénis qu'en y restant fidèles. Honorez, aimez le Père qui vous a transmis sa vie, la Mère qui vous a nourri dans son sein et allaité de ses mamelles. Y a-t-il un être plus maudit que celui qui brise le lien d'amour et de respect établi par Dieu même entre lui et ceux duquel il tient le jour? Vous êtes à vos parents un grand sujet de souci. N'ont-ils pas sans cesse devant les yeux vos besoins de toutes sortes, et ne faut-il pas qu'ils fatiguent sans cesse afin d'y subvenir? Le jour, ils travaillent pour vous, et la nuit encore, pendant que vous reposez, souvent, ils veillent pour n'avoir pas le lendemain à vous répondre quand vous leur demanderez du pain. Attendez, il n'y en a pas. Si vous ne pouvez maintenant partager leurs tâches, efforcez-vous au moins de la leur rendre moins rude par le soin que vous prendrez de leur complaire et de les aider, selon votre âge, avec une tendresse toute filiale. Vous manquez d'expérience et de raison. Il est donc nécessaire que vous soyez guidés par leur raison et leur expérience. Et ainsi, selon l'ordre naturel et la volonté de Dieu, vous devez leur obéir, prêter à leurs conseils, à leurs enseignements, une oreille docile. Les petits mêmes des animaux n'écoutent-ils pas leur père et leur mère? Et ne leur obéissent-ils pas à l'instant lorsqu'ils les appellent ou les reprennent ou les avertissent de ce qui leur nuirait? Faites par devoir ce qu'ils font par instinct. Dieu vous a-t-il donné des frères, des sœurs? Que rien n'altère jamais la paix entre vous, ni l'affection que vous vous devez mutuellement. Vous êtes sortis des mêmes entrailles et le même lait vous a nourri. Est-il un lien plus fort et plus sacré que celui-là? Faites en sorte que les années le resserrent toujours davantage. Notre sentier sur la terre est difficile et rude. Pour y marcher avec assurance, pour n'y point trébucher à chaque pas, appuyez-vous les uns sur les autres. Plusieurs se perdent par un choix léger de leurs amis et de leurs compagnons. Ne vous liez qu'avec ceux qui marchent dans la route du bien, dont la conduite est irréprochable. Les autres bientôt vous pervertiraient par leurs discours et par leurs exemples. Ils flétriraient en vous cette délicate fleur d'innocence qui répand sur le jeune âge comme un doux parfum. On se laisse aisément aller à ce qui flatte, au penchant que l'on doit sans cesse combattre et réprimer. Mais après la faute vient l'amer regret et le remords et la peine. Quand vous avez fait le mal, ne sentez-vous pas un secret malaise et une grande tristesse en vous-même? Le désordre engendre la souffrance, et il y a toujours une douleur cachée au fond de chaque joie mauvaise. Le calme, au contraire, la sérénité, l'inaltérable contentement, sont le partage de la conscience pure. Elle ressemble au passereau qui repose doucement sur son lit lorsqu'au dehors, la tempête secoue et brise les cimes de la forêt. Il vient un temps où la vie décline, où le corps s'affaiblit, les forces s'éteignent. Enfant, vous devez alors à vos vieux parents les soins que vous reçûtes d'eux dans vos premières années. Qui délaisse son père et sa mère en leur nécessité? Qui demeure sec et froid à la vue de leurs souffrances et de leur dévouement? Je vous le dis en vérité, son nom est écrit au livre du souverain juge parmi ceux des parricides. Et retenez bien cette dernière parole. Vous tous, pères, mères, frères, sœurs, s'il est sur la terre de vraie joie, un bonheur réel, ce bonheur, ces joies, se trouvent au sein d'une famille bien ordonnée, dont le devoir unit étroitement les membres, car le bonheur ici-bas ne consiste point dans la jouissance ininterrompue de ce que les hommes appellent des biens, mais dans le mutuel amour qui doit adoucir les maux inséparables de notre existence présente et les mélanges de je ne sais quelle lointaine émanation d'une félicité future mystérieuse.